Et ce soir, on va parler. Bon, ce soir, ce qui nous occupe et ce qui peut nous tenir un moment, il va falloir me contraindre dans des limites de temps, parce que c'est un sujet que je connais bien, c'est donc tout ce qui tourne autour de la professionnalisation, de l'animation et de l'éducation populaire. Alors, comme on n'est pas exactement dans la même configuration que les dernières fois, peut-être qu'on pourrait peut-être un petit peu se mettre dans le bain en voyant un petit peu ce que vous, comment dire, comment vous voyez-vous aujourd'hui, disons globalement, le monde de l'éducation populaire. Et puis, si je veux être plus simple, je dirais celui de l'animation. On peut peut-être faire un premier jet comme ça, hein, si vous avez envie de donner vos propres définitions. Moi, ça va m'aider parce que je vais partir de ces définitions pour faire la suite. Alors donc, en fait, je vous demande votre participation, là, vous voyez. On est dans le vif du sujet, là, en fait. C'est un peu comme si on faisait de l'éducation populaire, quoi, vous voyez. Voilà.
Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est justement, avant que tu m'arrives, j'ai envie de voir un petit peu les motivations des gens. De la
Par exemple.
Moi, je connais moins deux personnes ici qui sont militantes associatives à la maison populaire.
Voilà.
Et en professionnel, à part moi, on ne peut pas les autres. Et comme la thématique de ce soir, c'était un petit peu bénévole, professionnel, quel projet. Donc, au-delà des métiers d'animation, etc., c'était pour moi de questionner bon, comment travailler pour un projet qui est un projet. Et ce qui faisait qu'effectivement, on relève de l'éducation populaire parce qu'il y a un projet qui...
Avec immédiatement une première interrogation, peut-être, ça, puis après on reviendra pourquoi finalement ça, elle apparaît, cette interrogation, cette contradiction, c'est que sur un terrain où le bénévolat, c'est-à-dire le, au sens premier du terme, l'envie de faire, et puis donner de son temps pour faire, hein, progressivement va donner, alors sur une échelle de plusieurs dizaines d'années, va donner naissance à des gens qui vont être payés pour faire, des permanents. Et puis on va s'apercevoir d'une chose, c'est que celui ou celle qui est présent, par rapport à celui ou celle qui ne l'est moins, il y a un sacré décalage qui va commencer à s'opérer avec une question fondamentale, c'est qui est le garant du projet, qui est le garant en droit et qui est le garant dans les faits, c'est-à-dire au quotidien, quel est celui ou celle qui est là le plus souvent, et quels sont ses rapports avec les élus, les membres du conseil d'administration. En gros, est-ce que celui qui est, ou celle, hein, et celui qui est permanent, qui est là en permanence, salarié ou pas, mais il va devenir salarié, on va voir comment, est-ce que ça ne va pas avoir une certaine conséquence sur la nature même du projet défendu? Donc, quel professionnel pour quel projet? On est bien au cœur de notre question. Mais si on commençait par se poser la question de savoir si professionnel ou pas professionnel, par rapport à l'éducation populaire, à la vie quotidienne des structures comme celle-ci, mais aussi comme d'autres, comment vous apparaît la relation entre ces deux catégories d'acteurs de l'éducation populaire, là?
Des types de structures d'animation populaire, d'éducation populaire, libèrent. Et qu'il y a des structures où travaillent les bénévoles et les professionnels. Il y a des structures où il y a surtout des professionnels, quitte à ce que les bénévoles pour s'occuper des activités périphériques ne sont pas directement pouvoir encadrer, animer donc, il y a des centres sociaux, il y a des structures scolaires, il y a de la privatisation, et des bénévoles, plus ou moins de formation, plus ou moins. Il y en a de toutes sortes. On pourrait lister dans ces domaines-là, de la privatisation et des soutiens scolaires et tout ce qui est. Animation auprès des populations plus ou moins en difficulté, plus ou moins en phase d'intégration dans la société. Là, il y a des besoins gigantesques. Et de toute façon, l'intervention des collectivités est insuffisante pour qu'il y ait des professionnels. Et ce n'était pas forcément nécessaire qu'il y ait des professionnels parce que l'aspect contact entre deux personnes est très, très important aussi. Mais cela dit, dans tous les organismes, genre Emmaüs, etc., il y a quand même des formations. Et c'est des gens qui se rendent compte que sans être formés pour même faire des tâches qui paraissent a priori relativement simples, ça, c'est un titre de l'éducation populaire, mais qui a quand même une place très importante dans la société.
Oui, moi ce que je retiens, c'est que vous essayez de faire, donc vous faites plusieurs, vous faites une catégorisation par rapport aux activités concrètes, mais pas forcément par rapport aux projets défendus par les associations. Voilà, excellent. Comme ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le projet de base d'une association d'éducation populaire qui susciterait la nécessité ou qui ferait apparaître la nécessité d'avoir des gens permanents, formés, pour atteindre l'objectif? En gros, l'éducation populaire aujourd'hui se propose quand elle se propose quelque chose, se propose d'atteindre quels objectifs? Est-ce que c'est occuper le temps des adhérents? Est-ce que c'est leur transférer un certain nombre de savoir-faire? Poterie, peinture sur soie, peinture, décoration, lecture, cuisine, que sais-je? Qu'est-ce que vous donneriez comme première définition? Aujourd'hui, une association d'éducation populaire installée une structure qui existe. C'est quoi son intérêt, en fait? Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics l'aident? L'accès à tous, oui. Mais pour y faire quoi? Oui, oui.
Il y a aussi créer du lien entre des gens d'origine complètement différente et faire en sorte de cohabiter avec des gens qui, en temps ordinaire, ne cohabiteraient pas. Et on voit bien à travers notre fête de fin d'année, c'est là que c'est le plus flagrant, des rencontres concrètes à travers ces cours entre des gens totalement différents, qui ne se côtoieraient pas en temps ordinaire.
Créer du lien, tout en faisant autre chose, mais enfin créer du lien chez des gens qui ne se rencontreraient pas forcément si ce n'était pas dans cette situation-là. Vous voyez d'autres éléments?
Le fait que ce soit des associations, une association qui peut recevoir des subsides, fait que des gens ne pourraient pas se payer tel et tel type de loisir, peut-être se les payer. Je ne dis pas que ça va sauver tous les barrages, parce qu'il y a des publics qui ne viennent pas dans des endroits comme la maison populaire, c'est bien évident, et c'est bien aussi le drame, mais c'est une très très belle histoire dans l'éducation populaire, c'est pas d'hier. On sait très bien que même entre les deux guerres, l'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement s'employait, attirait essentiellement l'aristocratie ouvrière, des gens qui sont actuellement la petite classe moyenne, qui est la clientèle d'un lieu comme la maison populaire. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a d'autres lieux qui cherchent à toucher d'autres un peu.
D'accord, donc il y a quand même, dans ce que vous dites, même si vous qualifiez, enfin, donner de la qualité aux propos que vous employez sur le type de public, c'est quand même aussi cette perspective. Même si c'est pour tous, hein, quand on dit c'est pour tous, c'est... Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit pour tous, et éventuellement qu'on rajoute également, comme vous venez de faire...
Idéalement.
Encore mieux, à la limite. C'est qu'en fait, on pense au public qui n'en est pas un réellement. Le public qui... parce qu'on ne sait pas trop le qualifier, quoi. Hein. Un jour, c'est les exclus, un jour, c'est le public en difficulté, un jour, c'est le public idéalement pour tous, sous-entendu eux, etc., etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans la perspective de l'éducation populaire telle qu'on commence à la définir un peu, il y a le fait de créer du lien, donc un peu de socialisation, sociabilisation, pour pas... employer un terme équivoque, créer du lien entre des gens qui ne se verraient pas tout le temps, si ce n'était pas là, donc en fait une certaine mixité. En fait, il y a, dans ce qu'on vient de dire en trois ou quatre mots, le projet de transformation sociale, de transformation des rapports sociaux, on va dire, en tout cas des rapports qui existent ou qui n'existent pas, en l'occurrence, entre les gens, d'un quartier, d'une ville... En tout cas, d'un territoire. Ça vous choque quand je dis ça ?
Non, c'est... Enfin, je regarde pas beaucoup à la transformation en question. Mais s'il n'y avait pas ça, ça ne serait pas bien. Ce n'est pas parce que ça ne pose pas la transformation dont on pourrait rêver. Il me semble que ça ne peut pas avoir plus de transformation, ça me semble encore un bien pour vous. C'est pas parce que ça ne semble pas l'opérer que c'est pas bien. Ce côté lien social et passion, moi je pense que c'est des passions individuelles qui s'exercent et qui, des fois, pas toujours, mais souvent, exercer en commun provoque des échanges et des amitiés. Et la transformation sociale.
Moi, j'ai employé des mots, j'ai pris la précaution, peut-être la prudence, de ne pas les définir. Je veux simplement voir comment ça résonnait chez vous, mais apparemment, chez vous, ça résonne d'une façon très précise en termes de sens, transformation sociale, transformation des rapports entre les gens, transformation de la société.
C'est ce que vous dites.
Moi, je veux rien dire. C'est vous qui l'entendez comme ça. Je ne sais pas si tout le monde l'entend de cette façon. On touche à une des vraies difficultés qui fait que, quand on est professionnel, ou quand on souhaite le devenir, et que donc on ne l'est pas encore, on s'aperçoit d'une première étape de choses qui sont liées à l'évidence, et sur laquelle on doit beaucoup travailler. Quand on a une posture d'animateur de l'animation de l'éducation populaire, la première des difficultés, c'est de se fier à son bon sens. Comme si chacun était la totalité du monde, la capacité de tout comprendre. Une des premières dispositions, moi en tout cas c'est le message que j'essaie de faire passer, parce que je suis aussi formateur, c'est d'être à l'écoute. Jamais ce que l'on dit soi n'est peut-être compris comme on le dit par l'autre. C'est le problème de base de la communication, vous me direz. Hein, c'est pas... Sauf que là, dans cette perspective professionnelle, il y a quelque chose qui est sur la voie de l'éducatif, de l'éducation. Et l'éducation, et notamment celle des adultes, a un impératif catégorique, comme dirait Kant, c'est celui de faire avec l'autre. Si on veut que la greffe prenne, si on veut que le chemin s'amorce sur quelque chose de plus que l'instant A que l'on vit pour aller plus loin, on s'en fout de ce qu'on a en soi quand on est animateur, c'est ce que l'autre ou les autres ont qui est intéressant. Parce que c'est la base de la progression. C'est à partir de vous qu'on travaille, pas à partir de moi. Moi, le seul truc que je peux faire dans cette situation-ci, maintenant, c'est éventuellement mettre ce que j'ai appris au service de ce projet qui consiste à se retrouver un petit peu plus loin tout à l'heure qu'on était en entrant. Je dis ça comme ça, je voulais jouer un peu. D'ailleurs, ce qu'on a fait là, je vous engage à le refaire assez souvent parce que c'est la base des... C'est une des bases du professionnel. Créer une situation dans laquelle chacun va dire comment il perçoit les choses. Dans les réunions, chacun se présente. Hein. Ce qu'on vient de faire là, c'est aussi une présentation. C'est-à-dire qu'on apporte son identité. On est prié de venir avec son identité. Hein, et de ne pas la garder. Bon, ça, c'est une première chose. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on va s'apercevoir que, justement, si on donne trop de sens, on va rester sur transformation sociale, et puis on a vu qu'on pouvait lui donner un sens très précis. En gros, révolution. Non, mais c'est pas forcément synonyme. On peut comprendre la transformation, la création de liens entre les gens comme de la transformation des rapports qu'ils avaient avant, sans pour autant l'inscrire dans une perspective révolutionnaire. Mais on peut aussi le faire. Sauf que ce n'est pas forcément le même projet qui est à l'œuvre quand on travaille en fonction d'un axe ou en fonction d'un autre. Et deuxième grande chose chez les professionnels, en tout cas ceux qui souhaitent le devenir, c'est, je crois qu'on l'avait déjà vu, il faut déjà avoir dû le dire, c'est prenez le problème comme vous voulez, vous êtes que, donc il vaut mieux en être conscient, vous serez toujours au cœur d'un rapport de force politique. Toujours. L'animateur professionnel, qu'il le veuille ou non, qu'il choisisse son camp, qu'il ne l'ait pas choisi, qu'il fasse ceci ou cela, peu importe. Il ou elle sera toujours au cœur d'un rapport de force politique, c'est-à-dire d'un enjeu de pouvoir. Mais il faut le prendre tel quel, c'est pas dramatique. Les plus anciens dans cette profession, ça leur renvoie à des situations professionnelles précises, ça j'en conviens. Mais sur le fond, c'est une réalité. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'animateur, c'est-à-dire, ou l'animatrice, pourquoi est-ce que celui ou celle qui cherche à créer du lien entre les gens, qui cherche à installer des pratiques sociales, etc., pourquoi serait-il l'enjeu, pourquoi serait-il confronté à, selon les circonstances, des rapports de force de nature politique, des rapports de force de nature liés au pouvoir, local, national, selon la situation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ris parce que bon, là, des fois on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce que l'association dans laquelle on est fait. Donc il arrive toujours un moment où on ose le dire et contester un petit peu là aussi. Non, ça te fait.
Ça permet de réinterroger parce que ça part aussi du principe simplement que, effectivement, c'est un lieu de pouvoir qu'on peut abuser ou essayer c'est un vrai lieu de pouvoir parce qu'on détient d'une part des informations, des réseaux d'action, et que ça peut très vite tourner à d'animation, à distraction, etc., sans pour autant que les choses soient questionnées ou vécues de l'intérieur. Ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend dans le métier d'animation, c'est comment on met les gens au processus de créativité. Je ne dis pas création, parce que tout de suite, de créativité, c'est-à-dire qu'on part, comme tu disais, d'un point A pour arriver à un point B. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est le résultat qu'on va démontrer, c'est la finalité, quoi. Ou bien ce qui est intéressant, c'est le temps que les gens ils ont mis ce qui s'est passé entre le moment A et le moment B. Donc moi, là où je suis, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux mettre les gens dans une situation de faire un chemin. C'est-à-dire d'aller du point A du point B, et tant mieux si à la fin, il y a quelque chose en plus que l'on peut partager avec d'autres qui n'ont pas vécu cette intériorité.
Oui.
Alors, bon, c'est ça. Et c'est pas toujours évident de... Je vais mettre en place d'abord ce genre d'action. Moi, je suis très contente parce que, par exemple, la commission convivialité qui essaye de faire des choses, c'est-à-dire qu'il part d'un point A et d'un point B, bon, les sorties, les machins, etc. Et je suis sûre qu'il va commencer à faire des choses un peu plus intéressantes que la chose en elle-même. Ça crée d'autres types de liens, et puis peut-être après, ils voudront faire plus, on va donner plus de se lancer des défis, quoi. Ça, c'est bien. Donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est effectivement en dehors de les tentations qu'il peut y avoir, surtout à sa tête, on va dire, hein, c'est aussi comment on arrive aussi à mettre de l'exigence, à s'interroger sur les choses. C'est-à-dire que à un moment donné, ça fait mal de mettre des opinions de côté qu'on avait, d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Et bien, il y a peut-être qu'on peut aussi voir des problèmes sous un autre angle que celle qu'on a l'habitude de voir. Et ça, ça a aussi une démarche pédagogique, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça peut paraître difficile. Mais
Le grand mot est lâché. Le grand mot est lâché. Oh, pédagogique. Pof. Eh bien oui, parce que c'est un peu de ça dont on parle. Hein. La professionnalisation de l'animation, elle a ceci en toile de fond, c'est de, en fait, doter chaque professionnel de sa petite boîte à outils personnelle dans laquelle il va construire des outils pour lui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à charge pour lui de les utiliser le moment venu, mais dans des situations qui ne sont pas forcément ni les mêmes, ni repérables aisément, etc. C'est-à-dire que éducation populaire, éducation nationale, il y a une énorme différence. Une énorme différence. Au départ, on aurait pu penser que non. Mais au fil de l'histoire, et par les outils qui se sont mis en place, qui se sont constitués, et puis aussi par les perspectives ouvertes par chacun de ces grands domaines-là et du domaine éducatif-là, on s'est aperçu que les choses étaient quand même fortement différentes. Tel point qu'aujourd'hui, on pourrait comparer de cette façon-là. En éducation populaire, on n'a pas de public précis, on n'a pas de tranche d'âge particulière, on n'a pas de classe, on n'a pas de mur, on n'a pas de programme, mais on a des objectifs qui, eux, sont les mêmes, c'est de faire des citoyens, c'est de faire en sorte que la société fonctionne avec des égaux E-G-A-U-X, en travaillant d'ailleurs sur les égaux E-G-O, hein, avec un S. C'est quand même comme ça qu'on va essayer de faire avancer le schmilblick. Sachant que l'évaluation, c'est pas la note, c'est pas l'appréciation, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire d'évaluer le travail qu'un professionnel de l'animation peut faire. Et c'est aussi une de ses obligations qu'avant de commencer une action précise pour lui, il se fixe sa grille d'évaluation. C'est-à-dire, là, avec tel public, je vais essayer de viser ceci ou cela. Et puis, ça permet effectivement d'évaluer après. Alors, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup moins sérieux au sens de la reconnaissance qu'on peut avoir. Un prof est reconnu, un animateur, on lui demandera ce qu'il anime, ce qu'il fait. Et c'est dans un contexte comme celui-là que s'est constituée progressivement la fonction d'animateur. Avec au départ, on citait tout à l'heure la Ligue de l'enseignement, un nombre important d'instits, donc éducation nationale stricto sensu, hein, un certain nombre d'instituteurs ont passé du temps, puis progressivement, c'est le cas, je parlais de la Ligue, c'est particulièrement leur cas, avec un certain nombre d'instituts ont été détachés sur des postes de secrétaires généraux de fédérations de laïcs départementales, hein, pour animer, coordonner. Donc on a bien un fond commun au départ avec la question des méthodes pédagogiques qui ont fortement évolué. On dirait peut-être une chose, et puis après on verra à quel moment particulier tout ça a pu se développer, mais sur la méthode, sur le style de méthode, sur les familles d'outils qu'on peut être amené à constituer, il y en a un ou une façon de les définir tous, c'est la mise en situation. Ce n'est que par le jeu des relations dans une situation donnée que vivent les gens les uns avec les autres, que vivent les participants les uns avec les autres, que l'animateur peut être amené à faire évoluer les choses. C'est pour ça que l'activité qu'il ne faut pas confondre avec le but. Souvent, on a été amené avec le temps, avec la perte de substance des projets éducatifs ou d'éducation populaire des structures. On a défini les MJC, les centres culturels, comme d'abord faisant de la poterie, de la peinture sur soie, un ciné-club, mais plus en fonction des types d'activités que l'on pratiquait que de ce pourquoi on pratiquait les activités. C'est-à-dire, en gros, l'occupationnel d'un côté, qui finit par se suffire à lui-même, ou bien l'activité comme support pour faire autre chose. Et le point de départ, il est là. Et quand il y a une super spécialisation dans les maisons un peu importantes, il se peut que parfois l'aspect spécialiste d'une technique, mais spécialiste reconnu, spécialiste, je dirais doué pour faire court, et habile dans une technique, on pousse plus avant, on se spécialise bien, et puis c'est très beau, c'est très agréable, on fait ça très très bien, et on finit par perdre complètement la perspective pour laquelle l'activité se déroule. Moi, je suis souvent, j'étais directeur de maison de jeunes, j'avais un prof de yoga, Aude-Baran, qui était payé trois fois plus cher que tous les autres, et qui, on faisait des journées portes ouvertes, c'était très original, et puis à la journée porte ouverte, les adhérents du yoga venaient avec leur radio. Il l'appelait docteur. Docteur. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à dire « Ouh là là, là, il y a peut-être un petit problème. » Et alors, on peut multiplier les exemples, hein, on les verra. Donc, on touche tangentiellement une grosse difficulté chez le professionnel, c'est justement sa propre irruption dans le projet de l'association, intervient-il pour le nourrir ou intervient-il pour le mettre un peu à l'écart? Il y a une autre règle chez les permanents, alors là pour le coup pas les animateurs d'activité, mais on dit souvent qui a l'information a le pouvoir. Ça, c'est classique dans toutes les associations un peu structurées. Il faut chercher de ce côté-là pour voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Un point très technique et tout à fait périphérique, j'imagine, sauf si, mais ça ne m'étonnerait pas qu'à la maison populaire, effectivement, ce soit l'exception, mais j'imagine qu'on ne se bouscule pas forcément pour être trésorier. Ah, ben vous voyez, comme quoi j'avais raison de me... Erreur. Ben j'en suis très content, parce que c'est pas évident. Ah ben on en discutera plus tard, alors là, ça c'est... Oui. Non mais... Enfin bon... Vous voyez le type de difficulté auquel on peut s'exposer. Alors, si on essaie de voir un petit peu dans le temps, parce qu'il faut essayer de rendre à César ce qui lui appartient, le premier... Alors, il y a deux grandes familles quand même. Hein. On va essayer de parler des formations et donc des diplômes. Il y a deux grandes familles, c'est les diplômes professionnels, qui ne sont pas les plus anciens, et les certificats d'aptitude, qui eux le sont et qui ne sont pas des diplômes professionnels. C'est-à-dire, toute la famille des centres de vacances et des centres de loisirs, BAFAB et AFD, sont des formations qui sont des formations courtes, qui sont des formations que je qualifierais d'initiatrices d'une démarche qui peut devenir professionnelle, mais au départ, ça ne l'est pas. Donc, ça, c'est des formations qui ont commencé à se générer avec les premiers centres de vacances. Les premiers centres de vacances sont très anciens. Vous avez une idée des... On en a parlé, pas la fois d'avant, mais la première. Bon, grosso modo, hein, le premier grand mouvement d'éducation populaire, c'est 1866, la Ligue de l'enseignement, avec la pétition du sou pour l'instruction publique, qui rassemble plus d'1 200 000 signatures à la fin de ce siècle, hein, c'était important, et qui crée quand même le premier grand mouvement, première revendication pour l'école publique, Jean Massé. Et donc, en 1866, se crée la Ligue de l'enseignement. Vont se structurer un certain nombre d'activités, et à la fin du 19e et au début du 20e, vont avoir lieu les premiers centres de vacances avec des municipalités qui vont contribuer. Et donc, il va y avoir des premières formations qui vont exister. Mais il faudra attendre bien longtemps pour qu'il y ait, avec la structuration avant la Seconde Guerre mondiale, la structuration d'un certain nombre de mouvements importants de centres de vacances et de loisirs pour que se mettent en place les premières formations et les diplômes. Et C'est surtout après la Deuxième Guerre que là, les choses vont se structurer d'une façon claire, avec une intervention puissante de la part de l'État, à la fois dans le domaine des activités de centres de vacances et de loisirs, mais surtout avec la mise en place d'un premier diplôme professionnel, pour le coup, en 1964, qui est le DECEP, diplôme d'État. Diplôme, je l'ai en plus et je ne me souviens plus du C. Diplôme d'État.
Ça n'est plus court.
Ça n'est plus court. Le DECEP, 1964. Il faudra attendre, mais il y en aura un second, que celui est beaucoup plus connu peut-être, parce que tu dois l'avoir celui-ci. C'est 1970 avec le CAPAS. Donc, certificat d'aptitude à la promotion de l'animation socio-éducative. Alors là, il y a une montée en puissance des mouvements d'éducation populaire qui vont participer à cet effort de formation. Et je crois que le CAPAS, c'est l'exemple le plus achevé. Et malheureusement, oui, je dis encore aujourd'hui, je dis malheureusement pour ceux qui se sont structurés, où la formation est prise en charge à la fois par les mouvements d'éducation populaire et contrôlée par l'État. J'irai pas, y compris aujourd'hui, jusqu'à ce point-là, sur chacun de ces deux points. Mais on y reviendra. L'intérêt du CAPAS, c'est de permettre, à partir du moment où on entre dans le cursus du CAPAS, c'est de permettre à chaque animateur de se constituer son propre cheminement de formation, son propre parcours de formation, à partir d'un certain nombre d'UV obligatoires. Il faut les passer. Mais dans chaque UV, on a une gamme importante de propositions issues tant de l'État que des associations et mouvements d'éducation populaire. Et ça permettait une chose, j'insiste bien sur le nécessaire contrôle de l'État en la matière, mais ça permettait une chose, c'est de prendre conscience très concrètement que l'éducation populaire, c'est un foisonnement idéologique et confessionnel. Il ne faut pas se payer de mots. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai un peu poussé sur la transformation sociale. Il y a plusieurs exceptions du mot, mais c'est naturel. Dans l'éducation populaire est traversée et travaillée à la fois par des courants politiques, idéologiques et par des courants confessionnels. Et si on repère l'histoire des mouvements d'éducation populaire, on va retrouver ce même foisonnement, moins aujourd'hui quand même, hein, mais à l'époque où le CAPAS, donc 1970-1981-82, pendant donc 12 ans, le CAPAS a été un diplôme qui a permis à beaucoup d'animateurs de faire leur propre parcours par accumulation d'UV qu'on passait. Hein, et puis, une fois qu'on avait passé ces sessions un petit peu théoriques ou pratiques, puisque c'était des stages d'une semaine, on avait la nécessité de faire une expérience d'animation. Et donc, dans cette affaire-là, il y avait, pour le professionnel, la capacité d'acquérir dans les domaines de la gestion, de la sociopsychologie, de la psychopédagogie, de l'étude du milieu. Aide-moi, parce que c'est assez ancien. Oui, la vie de groupe, bien entendu. Ouais. En fait, ce qu'on est en train de faire là, quoi, d'une certaine façon, ça aurait pu être l'épreuve d'évaluation d'une UV CAPAS. Et donc, chacun et chacune pouvait sortir avec, finalement, non pas la formation idéale, mais les outils qu'il avait pu se constituer à son choix. Sachant qu'on pouvait éventuellement, mais j'ai vu le faire, en dehors du CAPAS et une fois que le diplôme était acquis, y compris faire ce genre de petit stage. Et puis, en 82, déjà c'était en gestation avant, c'était en gestation dès 79, un diplôme que vous connaissez évidemment, qui s'appelle le DEFA, a été conçu. Jusqu'à présent, DECEP CAPAS, c'était des diplômes jeunesse et sport. Là, le ministère des Affaires sociales, et on va revenir là-dessus après, se dit que finalement, avec jeunesse et sport, ça serait bien de faire un diplôme commun. Parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait jusque-là un certain nombre de parcours qui ressemblaient fort dans un métier et dans l'autre, ou dans une activité professionnelle et dans l'autre. Et donc l'idée, sur fort contexte de constitution d'une éventuelle majorité future, des réflexions étaient mises en route sur l'idée de faire un diplôme commun. Ce diplôme commun, c'est le DEFA. Alors, il rompt avec ce qui a été présenté comme un émiettement de la formation, l'ensemble de ces différents stages qui étaient le CAPAS, pour faire des parcours de formation répartis en 5 grandes familles, 260 heures minimum pour chacune d'elles. Donc on amoindrit la proposition, on recentre sur la gestion des éléments comme ceci, et on fait un diplôme qu'on va co-signer à deux ministères. La conséquence de cette bicéphalité, c'est qu'aujourd'hui, le DEFA n'est pas reconnu dans la grille des diplômes nationaux. Dans la fonction publique de l'État, il est considéré comme Bac plus 3, c'est-à-dire niveau 2, niveau de licence maîtrise. Dans la fonction publique territoriale, il est considéré comme Bac plus 2, c'est-à-dire l'autre diplôme inférieur. Dans la fonction publique hospitalière, pareil. Et dans les conventions collectives, il se discute selon les conventions, selon celles que l'on prend. Donc, on a un véritable problème qui est que le DEFA aujourd'hui, c'est un vrai bon diplôme professionnel qui est abandonné quasiment, qui est remplacé par d'autres qui sont beaucoup plus techniques et qui surtout n'est pas classé en tant que tel. C'est-à-dire que le niveau du DEFA aujourd'hui est reconnu par aucun titre, aucun niveau, ce qui est un véritable problème pour ceux qui l'ont. Évidemment, parce que ça se discute. Le DEFA se discute. Il a fallu se battre pour que dans la fonction publique territoriale, le DEFA puisse permettre de présenter un concours de catégorie A. C'est un concours de catégorie A, option d'attaché, option animation. Dans la filière de l'animation dans la territoriale, il n'y a pas de catégorie A. Il n'y a qu'une option. Alors que mes collègues et moi-même sommes des fonctionnaires de catégorie A dans la fonction publique de l'État. Et dans l'hospitalière, les animateurs, puisqu'il y a des animateurs en milieu hospitalier qui ont le DEFA, sont en catégorie B, puisque le cursus de formation des DEFASiens est le même que celui des infirmiers et des infirmières. Si nous classions le DEFA en catégorie A dans la fonction publique hospitalière, je vous laisse à penser la conséquence que ça a immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a une demande reconventionnelle à ce moment-là des infirmiers et des infirmières qui demandent d'être classés en catégorie A. Et dans la fonction publique hospitalière, il y a un certain nombre d'infirmières. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on est en plein dans cette situation-là. Et donc, aujourd'hui, on a une course à l'échalote entre le niveau, parce qu'on a une filière relativement complète, on a le niveau 5, le niveau 4, le niveau 3, le niveau 2, et puis on nous concocte aujourd'hui un niveau 1 pour les animateurs. La conséquence, c'est que du côté de l'employeur va se dire, mais finalement pour faire cette activité ou pour faire cette activité de cette animation-là, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui a un vrai diplôme professionnel. Le niveau 5 suffit, quoi. Hein, c'est-à-dire le BAPAT. De diplômes de ce genre. Niveau 5. Et on a une vraie bataille de reconnaissance parce que si on définit, et vous allez voir pourquoi finalement on tourne toujours autour du même problème, si l'animateur, lorsqu'il met en œuvre un vrai acte professionnel, c'est-à-dire en situation avec un public, si cet acte est de nature éducative, il ne peut pas être en responsabilité directe d'animation s'il n'a pas au moins le niveau 4. Le niveau 4, c'est bac. On ne voit pas comment la chose est possible. Or, un certain nombre d'employeurs, parce qu'évidemment, il est plus facile et moins cher de rémunérer un niveau 5, va dire, mais cet acte-là, il peut parfaitement le faire en pleine autonomie. Il peut parfaitement le faire tout seul. Il n'y a pas de problème pour faire ça. Bon. Sauf que on ne peut pas à la fois tenir le discours de la sécurité de l'acte professionnel d'un animateur, d'un côté, notamment pendant les vacances, et de l'autre côté, ne pas respecter un minimum de qualifications professionnelles. Et donc, on est aujourd'hui, pour des raisons économiques évidentes, dans cette fourchette qui consiste à dire non, le niveau 5 n'est pas un, le BAPAT n'est pas un diplôme qui permet d'être en pleine responsabilité. Il faut que ce soit nécessairement le niveau 4. Et bien entendu, il est plus cher en rémunération. Et on a des difficultés. Alors, j'embraye un peu sur la dimension syndicale de mon identité, mais néanmoins, elle est importante. C'est-à-dire que si on veut que cette profession se développe à partir de représentations et d'actes précis en termes professionnels, mais il est nécessaire de reconnaître à chaque partie de cet exercice professionnel une qualification précise. Et donc, on peut penser, encore une fois, que quand on a multiplié les diplômes pour avoir chacun des niveaux, on a aussi tendance, et on est aussi arrivé à court-circuiter ce qui faisait l'unité d'une certaine façon de l'animation, qui était la relation avec un public, la capacité à faire travailler un certain nombre de questions. Là, on a le BAPAT niveau 5, on a le BATEP de niveau 4, avec un morcellement d'activités qui sont pires que celles qu'on aurait pu reprocher à Feu le Capaz. Et donc, moi, je ne suis pas très optimiste sur la période, parce qu'on ne va pas avoir d'animateurs susceptibles de faire passer les projets. Et donc, par rapport à la question de fond qui consiste à dire si on veut des professionnels pour développer les objectifs de l'association, encore faut-il qu'ils aient la capacité précisément à la fois de s'y retrouver, ça c'est un choix personnel, mais aussi d'avoir les éléments techniques, la boîte à outils, les outils dedans, pour faire passer l'ensemble de ces éléments-là. Et ça c'est une véritable interrogation. La perspective qui s'ouvre aujourd'hui sur la professionnalisation, c'est, pour faire un point de situation, c'est plus d'un million de salariés répartis sur sept grands champs professionnels, cette convention collective. L'animation en tant que telle, l'animation socioculturelle, c'est-à-dire la majeure partie des salariés sur la convention collective de l'animation regroupe 361 000 salariés. Tous les autres, il y a sept conventions, donc je disais, plus l'hospitalière, la territoriale et l'État, pour les trois fonctions publiques, vous voyez qu'il y a un grand morcellement. Alors, on compte dans ce million de salariés, non pas les équivalents temps plein, ce qui baisserait le nombre, mais l'ensemble des animateurs qui sont aussi ceux des colonies de vacances, hein, enfin, des séjours de vacances. C'est un champ professionnel qui, même si on en parle depuis longtemps, l'animateur, n'est pas forcément bien structuré. Par exemple, vous ne trouverez pas, dans un dictionnaire quelconque, une définition du métier d'animateur. Vous aurez l'animateur commercial, l'animateur de vente, l'animateur. Vous n'aurez pas l'animateur d'éducation populaire, ça vous l'aurez pas. Donc, ce qui veut dire que même après 50 ou 60 ans, c'est un métier qui n'a pas encore cette reconnaissance-là. Sa formation, on vient d'en dire quelques mots, c'est une chose qui est constamment en évolution. On n'a pas réussi non plus à stabiliser, dans la dernière période, c'est-à-dire dans les 30 dernières années, on n'a pas réussi à stabiliser une formation. On n'a pas non plus réussi à réaliser une identification dans un gouvernement, enfin dans l'action de l'État. Ça peut changer tout à fait à la limite, si c'était un vrai métier, il serait de la compétence du ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Emploi. Là, c'est le cas tangentiellement pour les questions liées au prud'homme, aux conventions collectives, mais on en parle encore à l'agriculture, on en parle donc à l'éducation nationale, on en parle à jeunesse et sport, on en parle aux affaires sociales. C'est encore une chose qui est très, je dirais, multiforme. Hein. Parce que si c'est un métier comme un autre, il n'y a aucune raison qu'il soit.
Mais pourquoi, à ce moment-là, les profs en dépendraient également?
Non. Non. Non, parce que... ou alors ça voudrait dire que tous les fonctionnaires... Hein, c'est ça la difficulté de ce métier, de ces métiers. C'est qu'il y a à la fois de la fonction publique et du privé. Pour ce qui concerne les orientations générales des secteurs, l'industrie, l'artisanat, l'économie et les finances, etc., ça c'est des ministères qui peuvent, mais sur le plan de la reconnaissance des métiers, sur le plan de... sur le plan de l'exercice professionnel. Les règles, elles sont définies et elles sont garanties par un ministère, qui est celui de l'emploi. Hein? Quand vous regardez, et c'est intéressant de comparer, les 7 conventions collectives dans lesquelles le métier d'animateur, les activités d'animation sont citées, c'est extrêmement disparate, avec des conditions d'exercice, des conditions de rémunération, enfin l'ensemble de ce qui fait la définition d'un métier, tout ça est très disparate. Parce que ce métier n'est pas unifié, mais il n'a jamais que 50 ans. C'est vrai aussi, hein. Donc, sur le plan de la syndicalisation, je vous parle d'une chose que je connais, c'est tout est à faire. Tout est vraiment à faire. Avec aussi de vraies difficultés liées au fait que dans une structure, il y a des animateurs permanents, des animateurs vacataires, des activités, et puis du personnel qui est là en permanence, le directeur, la directrice, les personnels de secrétariat, etc. Et que syndicalement, on a vu des grosses confédérations avoir, dans le domaine de l'animation, le syndicat des directeurs et le syndicat des animateurs. Dans un processus confédéral, hein. Je ne dis pas chez l'État, avec la démarche corporative, un syndicat, un corps, un syndicat, ça se comprend. Mais bon, parce qu'il était absolument nécessaire, je vais citer juste un petit exemple historique à un moment donné pour montrer à quel point c'est intéressant que ce soit aussi comme ça, c'est que l'histoire a percuté complètement le développement de ce métier. Un exemple, la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture, qui s'est créé sur la base de la résistance, etc. Donc on ne va pas revenir là-dessus, pas de problème. À un moment donné, 1969, aboutissement de la grande crise entre la Ve République et, parce que c'est quand même ça, c'est la Ve République qui s'est fortement investie dans le développement de la professionnalisation. 1969, Joseph Comiti, ministre, ou l'équivalent, donc secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, décide de provoquer et de surtout de résoudre la crise qui l'opposait à cette grosse fédération. Ça a été relativement simple. Ils se sont débrouillés pour que l'aspect fédéral et national de la fédération éclate. Ça s'est effectivement produit, hein, en 1969. Et avec une conséquence immédiate pour les professionnels, qui étaient notamment les directeurs, c'est qu'il y avait, au niveau national, la facturation de la paye et l'exercice de la paye pour les directeurs. Bon. Et donc, je m'excuse de parler de ça, mais pour un professionnel, la base, c'est quand même le salaire. Et l'éclatement de cette fédération provoquait une incapacité totale de faire fonctionner ce service-là. Le lendemain du congrès, quand tout le monde s'est réveillé un petit peu avec la gueule de bois, il y a une chose qui s'est restructurée immédiatement, ça s'est appelé le centre interrégional de la paye. Les réflexes, là pour le coup, en termes d'existence du métier, c'était important. Mais c'était important parce qu'il y avait une appropriation collective du métier, des intérêts pour l'exercer, de sa formation. Et c'est vrai que moi, je suis sorti en tant que directeur de maison de jeunes d'un centre de formation de l'AFF. C'est vrai que c'était une formation qui était de loin plus importante que celle que j'ai pu faire après, avec le DEFA ou avant avec le DECEP. C'était des choses qui étaient très liées sur l'exercice professionnel. Mais l'exercice professionnel de cette fédération-là. Et là, on touche à une autre difficulté, au fort contenu idéologique des mouvements d'éducation populaire, c'est que, à côté de l'exercice professionnel, les outils, il y a la coloration idéologique, oui, mais pas seulement, elle pourrait être confessionnelle aussi dans d'autres cas, qui est définie par et c'est en toutes lettres au début de toutes les grosses associations et mouvements d'éducation populaire, il y a l'affirmation d'un projet identitaire. Les Francas, les CMEA, l'UFCV, c'est pas le même projet. Et donc, l'école de formation, le centre de formation qui est mis en place, les formations qui sont mises en place dans ces structures-là, à un moment donné, sont effectivement, et c'est naturel, colorées, je ne vais pas employer d'autres mots, colorées par le projet de ces associations. Alors, la seule question pour un professionnel, c'est de dire, bon, je vais me faire ma petite synthèse personnelle, mais quand j'aurai mon diplôme et quand je vais rechercher, quand je vais trouver où je vais trouver. Hein. Et donc, quelle va être la nature de ma relation de professionnel avec, si je me suis bien aéré l'esprit, ça ne me posera pas de problème, mais si ça n'a pas été le cas, il va falloir que je fasse la synthèse entre ce que je sais faire, ce que j'ai appris, et l'association en question. Et ce n'est pas un cas de figure comme ça, anecdotique. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui se sont retrouvés pas forcément... même avec le temps, pas forcément dans une maison de jeunes adhérente à la FFMJC, mais ailleurs, y compris à Léo Lagrange, par exemple, et là, ça pose de vrais problèmes. Parce qu'effectivement, les perspectives, on ne donne pas la même définition aux mots, je reboucle avec ce que je disais dès le début, on ne donne pas forcément la même concrétisation à tel ou tel projet central d'un mouvement associatif, et qui est, s'il est central, il est, lui, forcément de nature idéologique. C'est une de nos grosses difficultés. C'est aussi, je pense, pour ça que le métier n'est pas encore complètement sur ses rails. Parce qu'il n'est pas encore tout à fait dégagé de ce type de pratique.
Mais ces contradictions, si elles n'avaient pas lieu... Ça voudrait dire qu'elle serait laminée par un pouvoir politique central, et les contradictions en question sont le reflet de la diversité des courants de pensée de la société.
Absolument.
Qui sont très violents, très forts, etc. Mais ça serait quand même très triste si ce n'était pas présent dans toutes ces associations. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas... s'exprimer.
Ça voudrait surtout, surtout l'uniformité, quoi. Ce qui est,
un mode de pensée de la collectivité, une vision unique de l'éducation populaire. Alors ce serait côté communiste, côté catho, côté vabro, côté. Il y a toutes sortes. J'ai parlé par hasard. Avec un type qui s'occupe du scoutisme. Mmh. Et je lui ai demandé, parce que j'avais entendu parler des scoutinettes. Il dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Il dit, c'est les cato. Et puis, ça marche, les scouts. Alors, il y a les éclaireurs organiques, il y a les scouts de France cato, il y a les éclaireurs protestants, il y a les israéliques, qui sont tous avec une certaine idéologie relativement proche de. Vous parlez d'un exemple, la preuve de mouvement d'éducation nouvelle, quand même, très actif, les autres, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, etc. Hein. Et puis, il y a une vingtaine de mouvements dissidents qui, peu à peu, ont pas supporté l'éloignement des origines du scoutisme militaire, quoi, paramilitaire, et il y a des fois des groupes qui rassemblent 200 personnes en France, mais ils ne peuvent pas adhérer aux groupes majoritaires qui sont relativement consensuels, quoi, qui ne mettent pas complètement en avant leurs idées religieuses. Enfin, ça fait que ceux qui sont religieux, ça présente, ils acceptent de la laïcité, quoi, ils acceptent. Mais il y a des tensions extrêmement violentes dans ces choses-là. Et c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Comment faire autrement?
Non, mais il ne faut pas faire autrement. Je pense que vous avez cité un mot qui est quand même un mot clé de cette profession et de son corpus idéologique. C'est le mot laïcité. Hein. C'est aussi un exercice à faire, ça. Laïcité, 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 c'est quoi laïcité?
C'est la survie des différents courants de pensée, c'est la survie
du vivre ensemble.
C'est le vivre ensemble en s'asseyant de temps en temps sur ses propres idées, en disant que bah, de toute façon, sur ses propres idéologies ou pensées religieuses, etc., en disant que le vivre ensemble est plus important. Chacun pense ce qu'il veut, mais.
Ça vous rend.
Des fois, certains, pas tous. Je pense que les grandes religions en France ont beaucoup, beaucoup reçu de la laïcité. Et ce sont devenus des courants de pensée qui ont une certaine liberté, des gens qui y vont librement, alors qu'il y a une époque. On était catho parce qu'on était de famille catho, parce qu'on était dans un village catho et qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Et maintenant, même ces gens-là, avec qui on n'est pas forcément d'accord, acceptent des différences, parce que les cathos français vivent dans un pays laïque. Dans notre pays, ce n'est pas le cas.
Oui. On la définit aussi souvent la laïcité comme la neutralité.
La neutralité, faut la remplir. Quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément toujours mettre ses idées, effacer ses idées, mais c'est accepter la différence et le conflit de pensée, la confrontation.
Ah. Confrontation. Ça va pas trop de pair, ceci? Neutralité, confrontation.
Ça dépend du cadre. Hein. Je crois qu'il y a des cadres où la neutralité est nécessaire parce qu'on fait quelque chose qui implique une certaine neutralité. Puis il y a d'autres cadres où justement des discussions philosophiques, politiques, dans des cadres d'éducation populaire, où on peut mettre. On dit, ben, là on parle. On peut s'autoriser à mettre en avant
les
représentations.
Oui, parce que, ou bien on parle de tout, avec prudence, modération, enfin, on parle de tout, ou bien on parle de rien. Certes, mais pourriez-vous développer? Oui.
Ici, à la maison populaire, on peut très bien parler de tout. On prend un organisme public, et bien là, on parle de rien.
Pourquoi?
Parce que celui qui va venir vous voir, qui est d'une religion, on va dire juive, peu importe laquelle, on ne va pas nous afficher si on le reçoit. On est d'une autre religion que lui. Sa religion, on n'est pas là pour en parler.
D'accord.
C'est là que la neutralité est importante et qu'on n'a pas à afficher si on se
comprend. D'accord, ok. Dans le cadre du service public.
Voilà.
Oui, mais les agents du service public, eux, de par leur statut, sont tenus à cette neutralité-là. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'un fonctionnaire, et les enseignants sont des fonctionnaires, manifeste en quoi que ce soit, de quelque façon que ce soit, une préférence, préférence politique, philosophique, religieuse, on peut faire toute la liste, ce n'est pas acceptable. Et ça ne doit pas être accepté. Même si des événements récents nous ont amenés. Ah oui, mais j'entends bien. Mais moi, je peux vous dire que mon organisation syndicale, sur ce plan-là, a fait la guerre là-dessus. Hein, c'est clair. Hein. Les instruments de torture, c'est dessous, ça se porte. C'est pas ostensiblement. Ah non, ça c'est clair. Ah non, quel qu'il soit, ceux-là ou d'autres. Parce que c'est ça la question. C'est-à-dire que neutralité, d'accord, ok, c'est notre règle, c'est la règle du fonctionnaire. Mais elle est complète. C'est une règle pour tous. Si c'est une règle pour tous, tout le monde la respecte. Je regrette que certains premiers ministres aient le devoir de saisir non pas son code de l'éducation, son code civil, et saisissent plutôt le Conseil d'État d'un problème qui pouvait très bien se résoudre autrement. Bien sûr. Enfin, le principe de neutralité, il n'est pas récent dans le statut de la fonction publique. Il est très ancien. Et donc, pourquoi laisser une interprétation possible alors que ce sur quoi on vient de s'entendre tout de suite, c'est connu depuis très longtemps. Il n'y a pas besoin de saisir le Conseil d'État pour rappeler cette règle. Sauf que...
Apparemment, c'était très compliqué à débrouiller. Le ministre avait dit, bah, écoutez, débrouillez-vous comme vous pouvez. Les proviseurs, les principaux de collège étaient empêtrés dans une contradiction. Il a fallu une loi spécifique parce que c'était une période délicate et les lois de la République ne suffisaient pas.
Parce qu'on a choisi de penser qu'elles ne suffisaient pas. Il faut aussi le dire comme ça. Mais je n'ai rien dit, ni dans un sens, ni dans l'autre, à ce sujet. Je dis simplement, je pense, j'étais de ceux qui étaient pas forcément, syndicalement j'entends, hein, pas forcément favorable à une nouvelle loi. Elle s'est imposée, et je pense que je suis tombé à la fin d'accord sur le fait qu'elle était nécessaire. Mais elle était nécessaire parce que nous sommes allés de reculade en reculade par rapport à cette règle de la neutralité. Et que plus on recule à chaque fois, plus les digues risquent de lâcher, quoi. Et donc il en faut d'autres. Et l'autre en question, c'était une loi. Mais au point de départ, cette question, ce serait quasiment une question de coût dans la formation des animateurs. Laïcité, neutralité ou confrontation. C'est pourquoi ? Parce que c'est vraiment identitaire de projets qu'on peut développer. Parler de tout, de rien.
L'animateur s'inscrit dans un projet politique, les francas, etc. Il a le projet en question, quand même, c'est une certaine... C'est peut-être pas une vision spiritualiste de l'homme. C'est une vision, c'est une certaine définition de l'homme.
Oui.
Et qui est présente.
Oui.
Il y a une ambiguïté. Je pense que la neutralité est nécessaire.
Mais quand il s'agit de... Moi, je fais alors. Continuons à partir de l'exemple que vous donniez. Vous faisiez référence à la fonction publique, donc on en a parlé. C'est à peu près le seul lieu où effectivement, enfin, il peut y en avoir d'autres, enfin, où parce qu'il y a une obligation légale, la neutralité soit de mise et où laïcité peut se concevoir comme la neutralité. Hein. Mais sur tous les autres secteurs de la vie sociale. Après, c'est une question de confiance, de conscience, je veux dire. Chacun, effectivement, choisit soit de se confronter, soit de ne rien faire, selon l'intérêt qu'il met, la barre qu'il met, dans l'enjeu qu'il place dans telle ou telle relation humaine.
Ici, par exemple, on est service public ou on n'est pas, on est service public.
Ah, vous n'êtes pas fonctionnaire.
Oui, oui. Mais je pense qu'ils confrontaient des gens d'origine très diverses et qui n'ont pas du tout le même vécu, le même cadre de référence. On va dire qu'ils pensent à droite, qu'ils pensent à gauche. Bon, et il y a des moments où le professeur, qui avait décidé d'un cratère, est bien obligé d'appliquer cette règle de la neutralité avec la plus grande diplomatie pour justement. Qu'il n'y ait pas de débordement et que chacun accepte l'autre.
Et exemple.
Par exemple, on peut être confronté à des gens très racistes qui peuvent mettre en difficulté une personne en face. Et là, la règle de la neutralité.
Je vous laisse la responsabilité du choix. Je ne suis pas bien certain que. Je ne suis pas bien certain que le
Les statuts,
en cours, ils ne vont pas sortir les statuts.
Non, mais je ne pense pas que le racisme soit une conviction. Je pense que c'est, d'abord c'est un délit.
Je l'exprime peut-être mal, pour bien vous expliquer.
Oui. Tout à fait.
C'est pas évident et je pense que c'est cette règle de neutralité qui l'applique. Bon, moi, je me cours de yoga, évidemment, là, c'est fastoche. Mais je sais bien, parce qu'on me le raconte, qu'il y a d'autres cours où c'est pas du tout fastoche. Hein.
Ça vaudrait vraiment la peine qu'on en discute vraiment, parce que si... On pense que, justement, on revient à ce qu'on disait tout au début. Là, on touche, j'ai l'impression, bon, on va toucher doucement, mais bon. Est-ce que la question qui est en jeu, c'est quoi, finalement? Dans une activité, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui est en jeu? C'est la progression dans le savoir. Et c'est absolument indispensable, ici, donc c'est la priorité, tout s'efface derrière, ou bien c'est important, mais tout ne s'efface pas derrière, parce qu'on est ici.
Ici, c'est le savoir, mais tout ne s'efface pas derrière.
Nous sommes d'accord.
Parce qu'on veut créer d'autres choses, voilà. Faire marcher d'autres choses, et notamment le lien social.
Donc, à mon avis, hein, mais si moi j'étais confronté dans une situation comme celle-là à du racisme, pas forcément pulvérulent, mais enfin, c'est toujours un peu compliqué. Peut-être qu'il faut prendre le risque de passer une demi-heure dessus, quoi, sur le cas précis, avec des méthodes pas forcément policières, hein, c'est pas ça. Mais il y a moyen de tout de suite ou de le prévoir, il y a moyen d'essayer de faire évoluer. Au contraire, c'est très intéressant, parce que là, il y a un problème social, si on le perçoit comme tel. Et c'est important de le traiter, je veux dire. Hein. C'est-à-dire d'en prendre acte et de voir comment on peut le résoudre. Pas forcément seul. C'est pas forcément le problème d'un seul animateur. Ça dépend comment c'est fait. Mais c'est une situation à partir de laquelle un animateur doit pouvoir travailler. C'est même, au contraire, sa matière première, ça.
Et là, on est quand même entre adultes. On sait un peu, pour certains, beaucoup, ce que pense l'un, ce que pense l'autre. On peut s'exprimer un peu tout en étant attention. Quand on travaille pendant une année, deux années, trois années avec la même personne, on peut se lâcher un peu et c'est pas forcément grave. Et l'animateur n'est pas forcément obligé. Des situations gênantes. C'est plutôt vouloir convaincre l'autre ou humilier l'autre. Il y a des situations qui deviennent gênantes. Il y a des situations entre adultes d'expression de ces convictions qui font partie de l'échange normal aussi entre personnes. Responsable.
Moi, j'ai envie de dire aussi que bon, quand c'est pas pris, il y a des personnes qui est dans un rôle où moi je suis contre machin, contre machin, c'est pas comme ça. Bon, les gens viennent avec leur bagage, avec ce qu'ils ont, on va dire, c'est une proposition que l'on offre, mais s'ils restent, malgré qu'ils soient repris gentiment, etc., ils piquent un petit peu comme ça, et qui continue à venir, continue à rester, bon, on va dire, bon, ils ne sont pas là pour démolir, mais quelque part, c'est quelque chose au fur et à mesure, et ben, leur plan pensée se déplace, je ne sais pas. Ils commencent à trouver un compte, une autre vision des choses, mais ce n'est pas magique, quoi. Ce qu'il y a, c'est que, ce qu'on a voulu dire dans le travail que l'on fait aussi, c'est long. C'est un travail sur la longueur, quoi. On n'apprend pas à quelqu'un, on ne peut pas passer dans les lessiveuses pour qu'il passe autrement. C'est dans l'espèce de confrontation, justement, des positions des uns et des autres qui ne sont pas forcément les mêmes, mais des visions du monde, des visions des choses, etc., qui sont, en même temps, qui ne sont pas dans la haine, la démolition, quoi. On n'est pas dans les extrêmes. Donc, c'est déjà des gens qui viennent ici sur des propositions d'activité, c'est vrai, d'emblée, avec le désir d'apprendre quelque chose. On sait d'emblée aussi que la majorité des gens qui viennent ici, c'est pour trouver, rencontrer des gens, des nouveaux amis, se faire un milieu. Hein, c'est, personne ne le dit, ça. Bon, mais on sent bien. Donc, étant donné que ce désir non avoué est plus fort que le reste, et que l'activité peut devenir un prétexte pour y aller. Donc, on va essayer de faire en sorte de faire partie d'un groupe et aussi admettre que peut-être qu'on s'est trompé là, on va réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce travail sur le long temps, parce que, bon, on va dire que l'être humain est un animal qui vit en ordre, enfin, il ne peut pas vivre seul. Et que le désir d'être parti, faire partie d'un groupe, quel qu'il soit, comme Deleuze disait même d'un bande de voleurs, mais faire partie d'un groupe dans lequel on est reconnu, on est apprécié, et puis qu'on peut aussi donner le change. Moi, je crois qu'on travaille avec des choses comme ça, où, et c'est pas magique, quoi. Donc, c'est pour ça que dès là où on ne peut pas travailler, nous, dans l'événementiel, etc., pour lequel il existe, on n'en a pas parlé, des diplômes d'université qui s'appellent gestionnaire d'espace culturel, management, avec des mots comme ça qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. C'est C'est-à-dire que moi, j'embauche les... Bon, il y a des DESS à l'appel, quoi. Ils sont contents, quoi, des gestionnaires de structure. Ben oui, ils gèrent. Ils gèrent quoi, mais pas du fond.
C'est ça.
Ils gèrent de la forme.
C'est ça.
Donc, c'est pour ça que j'entends aussi que bon, tout ce que tu as dit par rapport à ces formations issues d'éducation populaire, dont le projet effectivement était de créer ce type d'échange, d'être ensemble, d'arriver à trouver des repères, comprendre le monde et tout ça, parce que c'est ça qui était politique en fait. Bon, on ne trouve pas dans les formations en faculté. Bon, l'esprit critique, je ne sais pas quoi on va le faire à travers des textes et des machins, mais avant tout, c'est la rentabilité. Donc, nous, on n'est pas en éducation populaire, on n'est pas dans l'utile, le rentable en termes financiers, c'est ça qu'on recherche, alors que ces formations universitaires sont au contraire dans le management, dans le profit, on appelle des établissements d'économie culturelle. Hein, les ECP, je ne sais pas comment ça s'appelle, établissements d'économie culturelle, bon, qui ont des statuts bien particuliers et qui fonctionnent dans la rentabilité. Or, c'est bon, voilà, ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui sont formés dans les domaines d'animation, en dehors de tout ce qu'on a dit au niveau des formations, etc., il y a très peu, qui drainent en même temps, derrière eux, des valeurs symboliques à transmettre. Parce que quand on dit projet politique, etc., projet machin, etc., c'est quoi avec quoi on joue? On joue avec du symbolique. Hein, donc, c'est ça qui fait qu'on a des repères pour aller en avant. Or, ça, bon, je ne sais pas si même BAC, UIT, animation, parce qu'il existe aussi, hein, ces formations.
Des UIT carrières sociales.
Des UIT carrières sociales, bon, peut-être dans certains lieux encore, il y a cette. Cette conscience qu'on est en train de jouer avec des valeurs symboliques et que c'est pas vrai, je ne veux pas être animateur de n'importe quoi, n'importe où, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un diocèse, mais bon, il faut y croire quand même un minimum que là il y a des choses qui se jouent et qu'on n'est pas en train
Mais si on aborde ça,
des c'est valeurs, ça. En fait, voilà. Des valeurs, quoi. Des valeurs communes. Qu'est-ce qui fait quand on est à de consensus, de machin, de laisser son truc au vestiaire, etc. C'est qu'à un moment donné, on peut être amené, même si on n'est pas issu du même milieu, etc., être amené tout d'un coup à devoir. Bah, on est d'accord sur certaines valeurs. Alors que, bah, on ne savait même pas qu'on pouvait être d'accord avec ça. Mais c'est du temps. C'est du temps, quoi. Bon, moi, j'attends pas le grand jour. Je pense pas qu'on va faire la révolution. Ça renvoie à l'histoire du tout. Alors, quand on dit le tout, on est impuissant devant le tout. Devant Dieu, on est impuissant. Hein. Alors, moi, j'ai dit comment on devient des dieux. Soyons Dieu. Tu comprends? Ben oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, prendre conscience, comment on peut prendre conscience de sa puissance à soi, par, effectivement, par. Par cette capacité qu'on a, qu'on peut avoir les gens à rentrer en action, acter des choses. Aussi petite soit-elle. On est dans le petit, c'est ça que je veux dire, on est dans le petit, on n'est pas dans l'événementiel. Moi, si je vais expliquer l'éducation populaire, etc., je prendrais aussi, je dirais ces mots-là, partager des valeurs, travailler dans l'infiniment petit, pas forcément utile dans l'immédiate utilité, la rentabilité, des termes comme ça. Qui sont un petit peu, qui paraissent étrangers par rapport à d'autres lieux qui peuvent être, on peut aussi faire de la poterie, du dessin, du machin, et c'est effectivement arriver avec un diplôme, vendre ses machins, être reconnu. Donc c'est vraiment un état d'esprit rattaché à des valeurs, quoi.
On peut, si tu veux, par rapport à. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis là, il y a eu en fait un grand schisme dans l'histoire de la. De l'intervention de la Ve République dans ce système, en tant que force d'État, en tant que force financeuse. Au début des années 60, c'est vrai, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on a vu la structuration du premier diplôme, mais aussi parce qu'il était impérativement nécessaire de proposer de l'encadrement social à un certain nombre de jeunes des quartiers, comme c'était curieux, qu'on appelait les blousons noirs à l'époque. C'est curieux comme quoi parfois l'histoire a tendance à un peu se répéter, pas vraiment, parce que dans la dernière période, on a surtout fait en sorte qu'il n'y ait plus d'animateurs là où ils étaient. Hein. Alors que dans les années 60, il y a eu une grosse intervention de l'État avec la préoccupation avec le souci affiché de régler le problème des, entre guillemets, blousons noirs. Et il y a eu une sorte d'appel d'offres de lancer au grand mouvement d'éducation populaire de l'époque. Certains ont répondu, d'autres pas. Je pense que ceux qui n'ont pas répondu ont dû se mordre un peu les doigts dans les années qui ont suivi, parce que ça a été le grand développement de la Fédération française de maisons de culture dont je parle. Il y a eu le financement de postes et d'infrastructures créées dans un nombre important de villes en France. Et donc, il y a eu là l'amorce d'une véritable action avec comme objectif de régler les problèmes de ces banlieues, mais surtout, de la part de la Fédé, de mettre en œuvre un véritable projet de lien social, d'éducation à la citoyenneté, bref, d'intégration, on pourrait dire. Et puis, alors, tout ça s'est bien développé, et on a vu, dans le même temps, la Ve République s'est aussi préoccupée de doter le pays d'une intervention également dans le domaine culturel. Et Malraux, qui fut le premier ministre des Affaires culturelles, s'était vu proposer avant le ministère qui devait s'occuper des jeunes. Et ça ne s'est pas fait pour un certain nombre de raisons obscures, que l'histoire tranchera un jour. Et il est donc devenu ministre des Affaires culturelles. Et c'est vrai qu'à un bref moment, on a pensé que les maisons des jeunes et de la culture se trouveraient avec Malraux. Ça n'a pas été le cas, et Malraux a mis en place, à partir d'une réflexion et d'un concept important et très différent de celui qui sous-tendait l'exercice de nos valeurs, je vais reprendre le même mot, et qui a structuré, et pour longtemps, le champ culturel qui était le champ de son ministère, c'est une espèce de concept un peu particulier, dit du choc esthétique. le peuple, s'il est mis en présence d'objets culturels de qualité, n'a pas besoin d'autres relations à cet objet que la simple contemplation pour qu'un échange artistique se produise entre lui, les individus qu'il compose, et l'objet. C'est-à-dire que, alors là on peut dire c'est très intello tout ça, sauf que ça a donné naissance, c'était le point de départ de la création des premières 11 maisons de la culture en France, avec d'énormes moyens financiers que n'avaient effectivement pas les MJC, qui pratiquaient tout à fait un autre style d'activité. Et quand je parlais du grand schisme, c'est effectivement à ce moment-là qu'il y a eu deux approches complètement opposées de la culture, mais au sens général du terme. L'un pensant qu'il était utile qu'il y ait une démarche éducative, que la chose se passe progressivement, qu'il y ait quelque chose du domaine éducatif, plutôt l'éduc-pop, et de l'autre côté, la démarche culturelle autour de ce concept de Malraux, où finalement il suffisait, comme disait Malraux, de leur mettre du Ricard et des objets culturels. Et dans cette affaire, c'est sûr que ça a développé une ligne bien précise de pratique culturelle, qui n'est pas forcément négative. Il y a eu pendant très longtemps, à l'intérieur des maisons de la culture qui fonctionnaient sur un triptyque, création, diffusion, animation, création, diffusion, animation, une capacité à la fois de faire circuler dans les maisons de la culture des productions d'autres maisons, à la fois de faire circuler des expos très intéressantes, c'est sûr, et puis aussi de faire fréquenter les maisons des maisons de la culture par les scolaires, les groupes, etc., les comités d'entreprise, avec des conditions financières intéressantes. Donc, tout ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur l'orientation en direction d'un public était fait également. Mais je parle de schisme à partir de cette différence fondamentale-là. C'est-à-dire que processus éducatif d'un côté, pas besoin, simple contemplation de l'autre. Et là, c'est sûr que ça a généré, pour le coup, des activités, des métiers et des formations qui, encore aujourd'hui, sont très éloignées. On a beaucoup plus de contact avec les affaires sociales qu'avec les affaires culturelles, de ce point de vue. Alors que les premiers de mes collègues au sein de l'État étaient tous des metteurs en scène, des comédiens, des danseurs, des plasticiens, qui étaient reconnus par ce type d'intervention qu'ils faisaient auprès des publics, mais dans un objectif qui n'était pas celui... qui n'était pas celui que je viens de décrire, mais davantage une perspective qui était tournée vers ce qui a existé après sous le nom de théâtre populaire avec Jean Villard. C'est-à-dire que la démarche de sensibilisation du public, la démarche de culture populaire, dont le nom culture populaire, c'est un concept qu'on retrouvait déjà à la Libération dans le plan Langevin-Vallon, qui était en fait la première structuration d'une intervention de l'État dans le domaine de l'éducation populaire. On ne parlait pas d'éducation populaire, on parlait de culture populaire. Et il y avait un élément très précis dans le plan Langevin-Vallon qui n'a, comme vous le savez, pas été appliqué. Ensuite, il y a un autre temps fort de cette histoire, après Malraux, ça se traduit dans les mots. On parle d'éducation populaire, d'animation socio-éducative, d'animation socio-culturelle, et de vie associative. En l'espace de 40 ans, on est passé par quatre appellations dont on pense que les gens les employaient l'une pour l'autre, etc., etc. Mais si des formules apparaissent, c'est pas parce qu'elles valent la même chose. Elles apparaissent parce qu'elles sont utilisées. Et en 40 ans, on est passé du concept d'éducation populaire à l'une de ces traductions juridique, vie associative. Aujourd'hui, le ministère auquel j'appartiens s'appelle le ministère de la jeunesse, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. VA. Hein? C'est-à-dire qu'on a tout perdu, quoi. Hein? On a complètement vidé de sens le concept à partir d'étapes parfaitement identifiées. L'animation socio-éducative, le DCP de Capaz, ça avait quelque chose de précis, socio-éducative. On fait à partir du lien social de l'éducatif, socio-éducatif. Je ne dis pas que c'est la seule définition possible, mais j'ai envie de prendre celle-là. Socio-culturel, d'abord socio-culturel en deux mots, puis socio-culturel en un seul mot. c'est quoi ? On fait plus d'éducatif, on fait une approche culturelle, on fait quelque chose qui est plus du domaine de ce qui se voit, de ce qui se touche, de ce qui se... Bon, mais le fond, la réflexion, le ce pourquoi on fait, ça disparaît. Bon, ça vit sa vie, et puis on arrive aujourd'hui à, tiens, c'est vie associative. C'est-à-dire la nature juridique des gens qui sont en lien entre eux. Ils sont en lien comment ? Pas par une association. Et le lien de départ, on l'a complètement perdu. Et donc, c'est pas étonnant de voir une explosion à l'intérieur d'un champ qui est quand même encore mal délimité, comme je le disais au début, une explosion de pratiques, de références, qui n'ont comme objectif de gérer, animer, mais animer à minima, alors que le principe de départ, et c'est ce sur quoi un certain nombre de professionnels continuent de se battre, et puis le fait que vous organisiez ce genre de discussion au coin du feu est également significatif de ça. On se bat pour réintroduire le concept, réintroduire l'idée de pratiques qui ne sont pas des pratiques de domination. C'est-à-dire que le rapport enseignant-enseigné, à un moment donné, l'autonomie de l'un et de l'autre, c'est limite. Hein. Bon. Donc l'idée, c'est d'essayer de revenir à cette démarche-là. Mais plus le temps va passer, plus la course à l'échalote risque d'être perdue par ceux qui veulent remettre du fond dans ces professions-là, parce que l'effet boule de neige, plus il y aura d'animateurs formés sur des techniques très larges, sans beaucoup de fond, plus ce sera difficile de réinvestir. Hein. Alors, j'y a, dans cette espèce de panorama pas très optimiste, j'ai un exemple du contraire, c'est que mes collègues recrutés, absolument pas sur du fond, uniquement sur de la forme, sont ceux qui demandent aujourd'hui à ce qu'on dise « mais d'où on vient, on veut absolument, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire ça, on voudrait trouver du lien ». Et avec des revendications qui sont celles de dire « bon, bah, au moins ça a du sens, il faut qu'on y revienne ». C'est des nouveaux, donc c'est plutôt bien, c'est rassurant, mais une grosse interrogation. Alors, je ne sais pas, ça peut être aucune conséquence sur des pratiques que vous pouvez identifier dans des associations, mais ça peut peut-être aussi en avoir, ça peut peut-être aussi vous amener à vous interroger. Non, vous ne vous interrogez guère. On a pourtant, avec Marie-Georges Buffet, quand elle était ministre, je dis on parce que c'est vraiment né d'une réflexion commune et d'une revendication que nous avions. On disait, il faut absolument, vous avez fait des choses sur le sport, une loi sur le sport, il faut impérativement que vous preniez une initiative dans le domaine de l'éducation populaire, car vous êtes ministre des deux, hein, donc il faut marcher sur vos deux jambes, Madame la ministre. Et on a mis en place... On a réussi à lui faire mettre en place ça comme ça. Elle a enfin pris une bonne initiative qui était celle de lancer une offre permanente de réflexion sur l'éducation populaire. Et ça s'appelait l'éducation populaire, comment ça marche. Et donc il y a eu un fort mouvement de réflexion qui consistait à refonder en quelque sorte, à travers tous ceux des partenaires qui souhaitaient y participer, de refonder quelque chose comme de l'identité aujourd'hui de l'éducation populaire. Et c'est vrai que à la fois la diversité des pratiques, la diversité des approches, pardon, hein, confessionnelles, idéologiques, est apparue, mais aussi un certain nombre de propositions très innovantes dans le domaine de la démocratie participative, dans le domaine des revendications à la transformation sociale, mais appliquées à des territoires, enfin quelque chose qu'il faudra de toute façon reprendre. Alors ça aussi, ça fait partie des éléments positifs de la période, qui n'ont pas perduré parce que, bah, comme vous le savez, après un gouvernement, il y en a eu un autre, et que les objectifs n'étaient pas forcément les mêmes, mais on peut penser que, en s'appuyant notamment sur la volonté de la Ligue de l'enseignement et de sa capacité aujourd'hui à faire du lien entre les mouvements d'éduc-pop, capacité réelle, on peut penser que ce type de réflexion peut reprendre du poil de la bête et donc nous permettre de revenir à un certain nombre d'idées de base.
quand tu discutes aujourd'hui avec des gens qui sont souvent qui la dépressivité, l'identité, les achats, je pense pas aux gens qui vont dire attention, attention, on a changé de planète là. Les liens se créent par ailleurs dans des réseaux qu'on n'arrive pas encore à identifier, sur le net, sur le machin, etc. Ben, bon, moi, je dis, ouais, mais de toute façon, je ne dis pas, moi, je suis à autre, quoi. Bon, alors, je ne dois pas être la seule, parce que moi, aller chatter, etc., pendant des plombes, etc., avoir des mots de passe pour entrer dans des sites qui sont hyper bouclés, hyper fermés, c'est des communautés qui utilisent la technique pour échanger, mais inter-machin vachement fermé. Ça, peut-être que c'est très bien, mais je vois pas comment ça fait du lien physique, quoi. À un moment donné, bon, on ne va pas tout le temps être dans la virtualité, sachant que la virtualité, c'est le propre de l'homme, de toute façon, même sans outils, c'est qu'il a besoin de passer par la virtualité pour après acter des choses dans le concret. Donc là, on est dans un système où on est dans la virtualité artificielle, on va dire, avec bon, c'est très bien parce que c'est un outil quand même, on l'a pas. Mais pour des pratiques qui actuellement échappent complètement, totalement, et on dit avec un discours hein, vachement fort quoi, là-dessus, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est moi qui suis pas dans le coup, que ces liens-là se font dans des pratiques complètement différentes, telles que par exemple les SMS entre les jeunes, mais je sais pas, moi je dis bon. Mais est-ce que pour autant, je dis ok, mais est-ce que pour autant, ça modifie les valeurs? Est-ce que ça modifie les symboles de pensée, etc. Peut-être, je ne sais pas. Donc, je reste perplexe. Je dis bon, au mieux ce qu'on sait faire, je vais faire que tu vas se passer des choses, mais trop dedans pour s'en apercevoir.
Non, mais ça nous percute très directement, Internet. Déjà, je suis sûr que ça modifie une chose, c'est l'orthographe. Mais c'est une, on peut, c'est pas qu'une plaisanterie, quoi. Je pense qu'il y aura à terme, il y a déjà des blagues énormes qui circulent sur l'évolution du français. C'est atroce. Enfin, du français, de l'anglais, de l'allemand, pour faire une langue européenne, une espèce de... Oui, mais c'est pas l'espéranto, parce qu'au moins là, il y a eu une recherche. Non, là, c'est une espèce de nivellement par le banc. Enfin, j'ai vu des trucs. À vrai sens, là. Bon, bref.
C'est une phase nécessaire à la chose.
Oui.
Voilà. Et que ça permet, c'est vrai, une liberté de choses, etc. Mais on essaie, bon. Il faut user dans le sens jusqu'à la corde, quoi. Enfin, bon, user dans l'utilisation. Mais bon, je ne sais pas, moi, au quotidien, est-ce que pour autant, mes rapports à l'éthique, mes rapports à une sorte de genre de moralité, etc., mes valeurs, mes symboles, etc., elles se trouvent déplacées. Est-ce que, non. Alors moi, je dis non, on va peut-être qu'on réfléchit, on communique avec certains outils, mais est-ce que pour autant, l'homme est un livre pour l'homme, ça change beaucoup. Je ne crois pas que c'est... Et il y a une espèce de, comment dire, illusion ou réalité, jusqu'à je ne sais pas. Alors moi, on est trop dedans pour que ça comprenne.
Oui,
bon.
Je pense que la construction de la cité, quelle qu'elle soit même des orientations politiques, en fait, sont pas complètement... C'est la grande affaire, comme la densité des liens, aussi bien familiaux qu'amicaux que larges, ces types de liens, c'est l'idée que la cité vous apporte et que pour que la cité fonctionne, il faut lui donner quelque chose. Et que on me semble qu'actuellement, il y a une certaine vision de la cité comme quelque chose qui vous doit tout le temps, et qu'on n'a rien à appeler, à partir du moment où on paye des impôts, etc. On est toujours victime, et de toute façon, on doit vous donner. Et à partir de là, moi je trouve que c'est terrible parce que tous les lieux que ce soit l'autobus, les boutons, etc., la rue, deviennent des lieux où on peut recevoir de l'hostilité, alors que ça peut aussi être des lieux où on peut recevoir de la sympathie, de l'entraide, des signes positifs. Et si les rues de Montreuil parfois sont si sales, quelquefois il y a des jours où je vous dis purée, non, t'as
mais tout le monde pourtant.
Oui, mais je sais bien qu'il nettoie qui passe leur temps d'ailleurs. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour à ce point, quand même, je sais pas, à ce point mépriser l'espace collectif. Il y a l'espace collectif comme si ça n'existait pas. Et je pense que vu comme la maison populaire est un lieu où on travaille de la pâte de l'espace collectif,
Mais ça, ça me semble être justement, on cherchait tout à l'heure quelle pouvait être la matière qui pouvait permettre de construire avec nos méthodes. C'était une vraie question, celle que vous posez, que moi je renvoie à l'interrogation sur laquelle tout le monde est resté pantois, au moins dans notre milieu, à la suite du saccage du gymnase à côté de Lyon, qui avait été précisément fait en réponse à un projet bâti par les habitants. C'est-à-dire que, mais c'est pas entre 3 ou 4 ou 5 qu'il faut réfléchir, qu'il faut travailler ce thème. Je crois que c'est vraiment essayer de trouver non pas une réponse ou la réponse, mais de trouver celle de ceux qui ont. C'est-à-dire qu'il y a dans la négation, c'est le mot que vous avez employé, hein, dans la négation de l'espace public, vous avez dit ça, il y a quelque chose qu'il faut décrypter. Je ne veux pas dire quoi, j'ai ma propre idée là-dessus. Mais,
c'est un fait.
Oui.
À ce point-là, quand on voit comme les banlieues ont brûlé, comme des lieux publics ont été détruits, des crèches, des écoles, etc., il y a quelque chose d'extrêmement fort qu'on maîtrise mal,
Oui, mais. Et c'est là où il y a besoin, et où il y a précisément besoin, c'est l'inverse qu'a fait Sarkozy, mais où il y a précisément besoin d'équipes d'animateurs sur place.
Comment rendre l'espace public au public dans le sens
C'est l'appropriation, quoi.
Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'espace public, il est plus au public. C'est-à-dire, bon, priorité au bagne, bien qu'on essaie de faire des piétons, etc. Mais c'est vrai que, bon, quand on fait un couvre-feu dans une ville, parce qu'on a tellement fait qu'il n'y a plus d'espace pour le public et qu'ils sont obligés d'être dans les cages d'ascenseur ou dans les machins, etc. On a été à l'extrême, quoi.
Moi, je ne crois pas à ça.
Écoute, il n'y a pas de... Je ne sais pas où ils évoluent, les gamins.
Oui, mais je pense qu'il y a des endroits où il y a...
Ils sont parqués.
Ils sont parqués, des fois, oui. Des fois, non. Des fois, ils se tiennent au bas des immeubles parce qu'ils ne savent pas bouger de trois pas de leur immeuble. Alors que toute la ville est à eux, ils sont scotchés en bas de leur immeuble, parce que, je ne sais pas,
ils arrêtent
un petit peu.
Parce qu'il n'y a plus de bus.
Un petit peu de
Parce qu'il n'y a plus de bus, parce qu'il faut avoir. Il faut avoir, je ne sais pas si tu habites à 30 km de Paris et tu as 15 ans, combien ça coûte un aller-retour Paris, 30 km ? C'est plus de 15 euros. Donc, quand ils arrivent à la capitale, c'est vrai que c'est pornographique, quoi. Il y a tout ça, il y a toute la consommation, ils sont machin, etc. Bon, je ne dis pas que ça n'excuse pas, mais ça crée de la violence. Ça crée une espèce de violence. Il y a des gens qui ont droit à des biens et d'autres qui sont exclus, ils ne peuvent plus bouger physiquement dans l'espace public. C'est-à-dire que tout l'été, il faut qu'ils restent parqués en bas chez eux. Hein. Moi, je ne sais pas, moi, ça coûte cher, quoi.
De chez moi, j'en vois qu'ils sont là toute la journée, ils sont à 500 mètres du centre de Montreuil, ils sont là toute la journée.
Qu'est-ce qu'il y a dans le centre de Montreuil, il n'y a pas
ils sont en train de machiner leur cam, etc.
Oui, mais ce n'est pas tous les jeunes. Enfin,
non, toujours... non.
On parlait de vieux en noir tout à l'heure. C'est... Bon, il y a toujours cette délinquance. Or, aujourd'hui, on veut nous faire croire que tous les jeunes, c'est des délinquants. C'est ça la tendance. Non. Et à partir du moment où tu es jeune, même si tu n'es pas délinquant, tu n'as pas le droit de circuler à partir d'une heure dans certaines villes, dans l'espace public. Qu'est-ce que ça veut dire? On est arrivé, on est arrivé dans un truc de réduction de l'espace public, de réduction de la pensée, de réduction, de réduire les jeunes à des délinquants. Stop, quoi. On est dans un esprit de réduction de tout. C'est-à-dire quoi? Réduction de liberté, voilà.
Sur le fait que l'intégration dont on parle si souvent, elle n'est faite que dans les banlieues, parce que c'est pas dans le 16e, c'est une affaire d'éducation.
Donc l'intégration se fait par l'argent.
Au détriment de ses propres biens.
Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, et que les explications courtes, etc., on n'y trouve pas le trou. Voilà, on est vraiment dedans.
Trouver des solutions et puis ça marche pas trop.
On est dans une situation qui n'est pas déterministe. Moi, je parle c'est aussi pardon, dans l'éducation populaire aussi maintenant que les choses elles sont pas déterminées. On est acteur de l'histoire et qu'on peut avoir une action sur les choses par le regroupement, etc. C'est aussi ça le projet politique, c'est que à partir de deux, on peut faire des choses, quoi. Quand on nous présente la situation complètement déterminée, ça va en arriver où ? C'est des années de politique d'un État, quoi. C'est des choix politiques qui ont été pris à un moment donné, comme tu as fortement dit, on a fermé à tour de bras, etc. Aujourd'hui, les Borloos, les machins, etc., les Sarkozy, ils sont prêts à donner de l'argent, quoi, pour que repeupler le désert. Mais ils ont créé le désert dans ces banlieues-là. Bon, ils ont tout fait pour que ça ferme. Les subventions n'ont plus, il n'y a plus. Et ben voilà, il n'y a plus de quartiers. Dans certains quartiers, il n'y a plus rien. Pour les moments, ils ne sortent rien. Donc, ils arrivent comme des pompiers, quoi. Mais attends, on ne recrée pas l'Éden comme ça en trois jours, quoi. C'est vraiment de populisme. On est là-dedans. Mais ça s'est pas fait en un seul jour non plus.
Je crois qu'il y a une phrase qu'il ne faut pas oublier, qui a été prononcée par le ministre de l'Intérieur, juste dans une conférence de presse, où il venait rendre visite à un commissariat de police, je crois que c'était à Marseille, en présence du directeur départemental des polices urbaines, où le commissariat en question avait, c'était notamment illustré dans un programme de prévention, où il jouait au foot avec les jeunes du quartier, et où il organisait des matchs de foot, des tournois, etc., et où le dit ministre a dit très clairement, la mission de la police n'est pas de prévenir, mais de réprimer. Et donc, à partir de ce moment, il faut se souvenir de cette phrase, parce que là, il y a effectivement toute une politique, hein, qui est celle qui consiste à prendre des instantanées de vie, à s'arrêter sur image, et à dire là, c'est là que j'interviens. Et en niant ce qui s'est passé avant, et ce qui peut éventuellement se passer après, qui est tout aussi important, qui est tout aussi, en termes de vie, cet instant, pourquoi sera-t-il lui plus important que d'autres? Nie complètement tout aspect éducatif de la vie sociale. En tout cas, pour nous, on l'a très mal pris. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de possibilité, c'est le déterminisme, hein, on est même allé jusqu'au rapport de l'INSERM, à savoir qu'à la limite, il faut repérer les enfants en bas âge, parce que sûrement qu'ils sont indicatifs de Donc, on est bien entré dans quelque chose. Alors, pour le coup, tu parlais de valeurs tout à l'heure. On s'inscrit complètement à contre-courant de ce type de valeurs-là. Hein. Ça, c'est bien clair. Quel que soit ce qu'on peut soi-même porter comme projet de société, il y a en tout cas celui des égaux. Hein. Je parlais, on fait des égaux à partir des égaux, mais c'est ça. C'est-à-dire que le principe même, la base de notre boulot, c'est effectivement de créer de l'égalité, de créer à partir de situations où lien social, identification de ses propres potentialités, développement, constitution d'outils, se développer soi-même. C'est idiot à dire, mais c'est quand même ça le truc de départ, la base, le projet. Après, tout n'est que façon de faire, sur laquelle on travaille, sur laquelle on réfléchit, mais ça n'est que façon de faire. Et c'est vrai que là, on se retrouve complètement confronté à une négation totale de ce travail qui se poursuit par la suppression logique des subventions données aux associations dans les quartiers. C'est logique. Avec l'état d'urgence, c'est logique. Avec l'armée, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part dans un autre contexte. Mais oui, aussi. Bon, donc, c'est pas notre truc, ça. Ça, c'est pas notre projet. C'est pas ça. Oui. Surveiller et punir.
On est en plein dedans. La gouvernance par la répression de liberté. Bon, c'est des petits trucs comme ça, des petits trucs, et puis on se rend compte en se retrouvant la vie de mourir. Bon, c'est ça dans lequel on va être vigilant. Et moi, je crois que dans l'association, pour conclure un petit peu, parce qu'il se fait tard, enfin, je vais encore des choses, c'est comment tout d'un coup on peut être amené à partager des valeurs à travers des choses comme ça. Même si on est d'obédience, de croyance, tout ce qu'on veut, tu vois, c'est pas ça qui prime. C'est, on voit des choses se passer et comment on réagit ensemble par rapport à des petites choses au quotidien qui, tout d'un coup, eh ben, si on n'est pas attentif, si on n'en parle plus, si on n'utilise plus, eh ben, ça s'use, mais dans le mauvais sens du terme. Et là, on peut se retrouver à partager des valeurs par rapport à des choses concrètes de la réalité. Et. Aussi petit soit-il, moi je crois qu'on travaille justement dans le petit, quand je dis c'est petit, c'est que le banal, et là on travaille sur le banal, ce qui peut paraître banal n'allait pas finalement. C'est pas aussi banal qu'on le pense, oui, innocent et naturel. Donc c'est des mots que je comprends.
Non, mais j'aime bien cette expression, on travaille dans le banal.
Naturel, banal
c'est, pourquoi
naturel,
pas
ça n'a rien à dire du tout, hein, tu vois, c'est naturel, c'est normal. Donc c'est avec ces notions-là. Qu'il faut tout le temps être vigilant, quoi. Et voilà, comment on fait des citoyens alertes, même dans les petites choses. C'est pour ça que la révolution, le grand jour, etc. Bon, c'est quotidien, à moyen terme, à court terme, il faut qu'on voit les trucs qu'on construit, que ce soit, bah, on a fait ensemble. Moi, je dis, voilà, ce bâtiment, il existe, parce qu'à un moment donné, on s'est dit en 89, en quoi on peut être révolutionnaire. Bah, il va changer la société entièrement, mais quels sont nos besoins collectifs ici à nous, comment on peut, on a besoin d'espace, hein, parce que nos activités sont dispersées, on n'a plus d'identité, on ne sait plus, il y a une commission qui a été créée, il y a 30 personnes qui sont mobilisées pendant 3 ans, parce qu'on a 3 projets qui sont faits,
ouais.
Et puis voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est concret, aujourd'hui, bon, on nous franjouisse, ils ont voir l'histoire de la chose, comment ça s'est fait. Et c'est de dire, voilà, maintenant, toujours poser qu'est-ce qu'on peut faire avancer ensemble, aussi petit que ce soit-il, mais pour qu'on voit les choses, et puis c'est pas pour soi, c'est pour plus tard. Et bon, voilà, ne pas dire, voilà, j'ai payé, je veux, et pouvoir jouir, consommer tout de suite de la chose auquel on a contribué. Et ça, c'est vrai qu'on est dans cette tendance-là aujourd'hui, c'est pas un hasard non plus, hein. Soyez consommateurs, vous nous intéressez. Voilà, et ça aussi, c'est, je veux dire, beaucoup d'aspects, le fascisme, la consommation, si on ne consomme pas, on n'est pas des citoyens. Et puis, il y a ceux, effectivement, ils entendent ce discours et qui n'ont aucun moyen de consommer. Et bien, ça fout la rage, quoi. C'est pas compliqué. Et ça crée de la violence parce que. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de façon. On ne va pas recommencer le débat. Mais voilà, moi je dis, il faut qu'on travaille avec le banal, le petit, et puis être vigilant et trouver, se forger, se refabriquer, réaffirmer des valeurs communes. Voilà, qu'on peut le dire ensemble. Voilà. Je crois qu'on.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter.
Dans des lieux comme ici, c'est facile. La plupart des gens qui viennent partagent. Une grande partie des valeurs communes en fait.
C'est tant mieux.
C'est relativement.
Ouais.
Je pense à la maison populaire, je ne veux pas dire que c'est facile, hein, parce que c'est vraiment des affaires dans le temps, mais je veux dire que le public qui vient dans la maison comme ici, il y a un public assis à un certain nombre de. En gros, un certain nombre de valeurs.
Est-ce que c'est Est-ce que c'est, enfin, je veux dire, est-ce que c'est vrai? Je veux pas douter, mais ça me paraît difficile que, ou alors vous avez fait un super travail, mais ça me paraît difficile qu'il n'y ait pas quand même une certaine, surtout avec un développement d'activité, qu'il n'y ait pas une perte de substance par rapport à l'éducation populaire, par rapport au projet qui consiste à dire. Et ça, c'est terrible. Moi, j'ai été 4 ans directeur d'une structure relativement importante, à laquelle appartenait le fameux prof de yoga dont je parlais tout à l'heure. C'était un souci permanent que de réinjecter parce que c'est très facile, surtout quand ça se passe bien. Mais oui, c'était une baraque qui fonctionnait bien, elle était bien entretenue, c'était agréable, il y avait des bonnes activités, il y avait des adhérents, ça y allait, quoi. Hein? Puis c'était pas dans une ville particulièrement pauvre, pas particulièrement riche non plus, mais enfin bon, hein, la nouvelle petite bourgeoisie, bien classe moyenne, bien impeccable. Bon, et c'était en permanence le souci de réinjecter, parce que poterie, cuisine, ciné-club, photo, pas de problème. Yoga, gymnastique, danse, aucun problème. Les journées portes ouvertes, c'était, on remplissait tous et aucun problème. Mais quand on essayait de savoir pourquoi les gens venaient, ils venaient parce qu'ils avaient un petit temps là, hein, c'est un petit moment. Parce que le mari allait rentrer, il travaillait à côté, donc il y avait à s'occuper un peu, parce que pourquoi pas faire de la photo, là je vais partir en vacances, il faut que j'apprenne un certain nombre de trucs. La vie de groupe dans cette maison, c'était ce qui était le plus difficile à faire. Il y avait un conseil d'administration qui était incapable de résoudre les trucs, incapable, alors qu'il y avait là-dedans des gens qui étaient... Mais le lien, hein, la capacité collective de gérer ne serait-ce qu'un programme de ciné-club. C'est pas, on peut dire, ça peut le faire, mais fermer un truc un peu sympa, puis un atelier photo à côté, puis peut-être une salle de spectacle, et puis, c'est-à-dire mettre des trucs qui étaient là, à disposition, qui tournaient. C'était très difficile. Parce que, dans le temps, on avait consommé, on venait là, par habitude, par etc. Alors, c'est très difficile.
Et puis, c'est vrai qu'on a des activités qui sont là. Et moi, j'ai toujours, il y a une énième activité qui n'est pas sur les plaquettes, c'est la vie démocratique de la structure. Donc, moi, j'avais allé à la G, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on crée comme commission? Parce que les histoires de commission, il y a un journal entièrement rédigé par les adhérents, la commission convivialité qui est mise en place, qu'est-ce qu'on en fait comme commission?
Le bâtiment.
Ah, le bâtiment, voilà. On veut. Parce que c'est un lieu, effectivement, où les gens, en dehors des activités, peuvent se retrouver pour reprendre possession un petit peu de ça. Oui. Comment on crée du lien, comment justement on décloisonne les pratiques qui sont là à travers d'autres propositions qui viennent en transversalité pour recréer justement cette chose-là.
Tout à fait.
C'est pas évident. Bon, on sait que c'est compliqué à amener les gens, demander un...
C'est que malgré tout ce qu'on a pu dire sur l'atelier, en quelque sorte, on a fait comme ça ce soir, on a eu beaucoup de mal à faire bouger les gens, parce qu'ils se sont tous trouvés des choses plus importantes.
Mais bien sûr.
Mais on va savoir leur faire regretter. Non, mais
l'important, c'est qu'ils soient là, on a une commission, machin, etc., qui produit des choses, parce que bon, on retombe un peu dans le truc de M. Jolan, qui est de la prose sans savoir.
Ouais.
J'ai dit, bon, ce lieu-là, c'est vrai qu'on va dire, on va réaffirmer un peu les choses, comme ça, redire, renommer. Mais bon.
Et puis, c'est la démultiplication des actions, et des expériences. Jamais abdiquer.
Non, j'étais en train de me dire, mais en même temps, je ne suis pas dans le milieu, donc ce que je crains, c'est de parler de quelque chose que je ne connais pas, mais j'ai un mon compagnon qui est président d'une association sportive. Et je sais que les gens s'approprient beaucoup en fait tout ce qu'ils font. Et du coup, ils sont vachement impliqués. Alors, c'est vrai que se passe et en fait, je me dis, est-ce que en même temps, quand on veut faire participer les gens, c'est juste un point d'interrogation, je ne mets pas de question, oui, je sais ce que je ne mets pas, mais est-ce qu'il y a un espace pour qu'ils s'approprient aussi un petit peu quelque chose pour, je sais pas quoi faire, pour apporter un peu de leur identité pour, mais bon, je vous dis, je crains de parler de ce que je connais pas.
Un espace pour dire un lieu, un
pour eux, un espace, oui, pour eux, pour partager. Alors, je suppose que oui, en même temps, dans une maison comme celle-là.
Ah, juste une question. Bon, alors, à partir du moment où il y a une demande qui est formulée, on fait quelque chose ensemble, on
se rencontre,
comment faire pour trop dégager un lieu, tu vois. Donc ça, c'est déjà super. S'il y a un groupe qui se pointe, qui voudrait aller rendre on voudrait faire ça et tout ça, tu parles comme un secours sur l'occasion. Donc pour dégager quelque chose pour une solution. Donc c'est là. Et faut-il encore susciter cette demande, elle émerge. Bon, alors on discute entre eux, etc.
Je vais vous citer un exemple qui est, c'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais on avait au ministère un programme qui s'appelait, ça consistait à donner des subventions pour que des groupes se créent. Et alors on avait le choix entre filer le paquet de pognon pour financer des voyages ou bien faire autrement, quoi. Et moi j'avais adopté la méthode qui consistait à dire on peut financer, mais ce sera 2000 francs à l'époque, hein, ce sera 2000 francs. Tous les gars avaient des projets pour partir vachement loin, etc. Alors 2000 balles, que dalle, hein. Bon. Et on disait, oui, mais alors le truc, c'est bien, c'est pas beaucoup, non, ben c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Il faudrait que vous trouviez un peu plus, quoi. Il faudrait que vous fassiez un budget pour vous aider, que vous ayez voir, etc., etc. Alors, il y en a des groupes qui démarraient absolument pas, donc ils ne pouvaient strictement rien faire avec 2000 francs. Par contre, il y en a qui sont allés là où ils voulaient, hein, c'est-à-dire assez loin, de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi de l'autre côté de la Manche, de l'Atlantique, etc. Et ils s'étaient structurés, ils avaient pensé leur projet, ils avaient réfléchi, ça demandait du temps, hein, c'est pas après ce bouton, hein, ça demande 6 mois, etc. Et à la limite, les 2000 balles, on aurait très bien pu ne pas leur donner, ils n'en avaient plus besoin à la fin. Mais c'était le pied à l'étrier. Plus le fait que j'accompagnais, j'aidais, on montait des trucs, mais ils se mettaient en route et à la fin, ils n'avaient plus besoin de moi. Même plus de mon fric, donc c'est très bien. Mais c'était ça le but quand même, à un moment donné. C'est-à-dire de faire en sorte que ça puisse se constituer. Donc, peut-être que c'est une idée en l'air, vos sportifs, mais peut-être qu'ils ont quelque chose aussi qu'ils veulent défendre, et pour ça, il leur faut un lieu, il leur faut un chez-eux, quoi, qui identifie le projet. Mais on est des accoucheurs, en fait. Mais si, c'est vrai.
Merci à vous, M. Gérard, d'avoir fait cette maillotique.